pourquoi, moi qui étant écrit sur les mécanismes de la domination, n'ai jamais écrit sur la domination sociale. Toute ma démarche théorique était fondée sur l'hypothèse que ma rupture totale avec ma famille pouvait s'expliquer par mon homosexualité, par l'homophobie foncière de mon père et celle du milieu dans lequel j'avais vécu. Pour cette raison, j'avais évité de penser qu'il s'agissait tout autant d'une rupture de classe avec mon milieu d'origine. Je fus un transfuge de classe dont le souci aura été de mettre à distance sa classe d'origine, d'échapper au milieu social de son enfance. Comme était grande la distance qui me séparait désormais de cet univers qui avait été le mien, et dont j'avais, avec l'énergie du désespoir, voulu ne plus faire partie. Je dois avouer que tout en me sentant toujours proche et solidaire des luttes populaires, j'éprouvais au plus profond de moi-même un rejet du milieu ouvrier tel qu'il est réellement. J'avais opéré un certain choix de mon passé, de l'enfant, de l'adolescent que j'avais été. Un enfant gay, un adolescent gay, et non un fils d'ouvrier.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Dans un studio de post-production, une actrice enregistre le commentaire d'un documentaire dont les images défilent sur un écran derrière elle. Depuis la régie, le réalisateur lui donne des instructions et parfois s'énerve lorsqu'elle critique certains de ses choix. Le texte lu est tiré d'un livre, Retour à Reims, dans lequel l'auteur Didier Héribon, présent dans la première partie du film, raconte sa prise de conscience après la mort de son père, de son silence sur ses origines sociales et la honte qu'il en a toujours ressentie. Alors qu'il a beaucoup écrit sur la question gay et la honte sexuelle, ce sociologue et philosophe, disciple de Bourdieu et de Foucault, va s'atteler à décrire sa relation douloureuse à sa famille ouvrière, autrefois communiste, aujourd'hui passée à l'extrême droite, sur fond de trahison des partis de gauche. En 2009, Didier Héribon était venu ici pour parler de ce retour à Reims, passionnant témoignage personnel, mais également analyse forte et argumentée, de l'abandon de la classe ouvrière par une gauche convertie après 1981 au libéralisme le plus féroce. Traduit partout dans le monde et disponible aujourd'hui en poche, ce livre qui raconte aussi l'histoire de notre génération a déjà rencontré un très large écho. Le metteur en scène, Thomas Ostermayer, l'a porté à la scène en imaginant ce dispositif intelligent dans lequel Irène Jacob, actrice subtile, prête sa voix et son questionnement à l'élaboration d'un film traversé par les archives de notre histoire récente. Retour à Reims, à lire et à relire, est aussi à voir à Paris, à l'Espace Cardin jusqu'au 16 février, et puis il sera partout en France jusqu'à la fin du mois de mai. Bonsoir Irène Jacob.
Bonsoir.
Bonsoir Didier Héribon.
Bonsoir.
Didier Héribon, quand nous avions parlé en 2009 de ce glissement de la honte sexuelle à la honte sociale qui fonde l'écriture de ce retour à Reims, est-ce que vous aviez imaginé à quel point ce thème de la honte allait recouper beaucoup d'autres thèmes qui tournent tous autour de cette honte qu'une génération peut ressentir, de l'abandon de ses racines, de l'abandon des idéaux politiques, de l'abandon d'une partie de la société?
En fait, quand je l'ai écrit, je l'avais écrit ce livre pour m'expliquer avec moi-même. C'est un livre dont les destinataires étaient mes amis, mes proches et disons plus largement mes lecteurs. Je n'imaginais pas qu'il aurait cet écho, ce retentissement dont je suis très heureux mais qui m'a un peu au départ surpris. Et surtout je n'imaginais pas qu'il serait porté à la scène parce que s'il y a bien un texte qui n'est pas écrit pour le théâtre, c'est celui-là. Et il faut évidemment le talent de metteur en scène et le talent d'acteur et d'actrice pour en faire quelque chose de théâtral. Et je dois dire que quand j'assiste au spectacle et que Irène Jacob commence à lire le texte sur les images dans lesquelles Thomas Ostermayer m'a filmé en train de retourner à Reims, dans les lieux où j'avais habité quand j'étais enfant, adolescent, scène de conversation avec ma mère. Comment dire, je suis moi-même ému, parfois bouleversé, justement parce que une actrice comme Irène, d'un seul coup, donne à ce texte que j'avais conçu comme un récit autobiographique, mais surtout comme un ensemble d'analyses et de réflexions. Une actrice comme Irène donne à ce texte une force émotionnelle qui me touche moi-même. Donc j'imagine que les spectateurs et spectatrices qui sont dans la salle doivent ressentir une émotion qui n'était pas l'intention de départ du texte.
Vous dites il faut du talent, Didier Ribon. Certes, mais il faut, je crois, aussi entrer en résonance personnelle avec ce texte. Irène Jacob, comment est-ce que vous vous êtes emparée de ce texte? Comment vivez-vous avec ce texte qui est effectivement, comme le dit Didier Ribon, un texte personnel, mais qui est aussi un texte qui nous parle à nous tous?
Oui. Il a fallu chercher d'abord, c'est vraiment un grand honneur et vraiment je suis très émue d'être avec Didier là aujourd'hui, mais aussi quand il est dans la salle, c'est quand même sacrément émouvant de porter ce texte. Mais effectivement, de trouver la bonne place, parce que c'est la pensée courageuse d'un auteur qui se prend d'abord comme sujet d'observation avec beaucoup de courage, d'une façon implacable et avec beaucoup d'émotion aussi, puisqu'il y a des mots comme j'éprouvais, je ressentais. Donc c'est pas seulement quelque chose qui reste d'une façon théorique. Il y a aussi dans le langage des sentiments sur lesquels on va chercher la dignité, la honte, la séparation. Enfin, et puis aussi effectivement, il y a une pensée qui se construit petit à petit. Et c'est là-dessus surtout que nous avons travaillé avec Thomas, comment cette pensée se développe et essayer peut-être d'offrir une pensée qui se développe. Je crois que pour beaucoup, on a du mal à avoir une pensée objective. Nous sommes tous de façon très affective, pour la plupart, avec des pensées courtes, de trouver le développement qui peut, une pensée qui peut partir d'un point pour aller de plus en plus loin et de plus en plus profondément vers quelque chose d'autre. Trouver ce chemin-là a été le travail et puis trouver le bon endroit, parce qu'effectivement, chaque spectateur doit pouvoir se dire en écoutant ce texte, ah, oui, non. Enfin, il doit pouvoir lui aussi jouer avec sa pensée et se sentir libre de ressentir soit de l'empathie, soit un désaccord, soit puisqu'on va aussi ensuite explorer une société dans laquelle chacun se trouve et avec effectivement, alors, résonance complète, oui. J'ai l'impression d'ouvrir ma poitrine en face de la salle et de devoir avec ce micro parler de façon très, et de rentrer dans une pensée pour essayer de rejoindre la pensée du spectateur.
Alors, nous le disions au début de l'émission, c'est un dispositif inventé par Thomas Ostermayer. Le fait que vous, Irène Jacob, vous dites un texte, donc des extraits du livre de Didier Ribon, sur un documentaire qui défile, vous êtes là, actrice professionnelle, pour dire le texte sur le film de quelqu'un d'autre. Ce film, il se découpe en deux parties, très clairement. La première partie, Thomas Ostermayer a voulu qu'on suive Didier Ribon dans ce retour à Reims et dans ce face-à-face avec sa mère.
C'est grâce à ma mère que je fus en mesure d'aller au lycée et de poursuivre des études. J'ai travaillé un mois pendant les vacances d'été après le bac dans la même usine qu'elle et je pus constater ce qu'était la réalité d'un tel métier. Ma mère l'avait fait pour que je sois en mesure, une fois à l'université, de rester enfermée pendant des heures dans ma chambre à déchiffrer Aristote et Kant. Quand elle dormait la nuit pour se lever à 4 heures du matin, je lisais jusqu'à l'aube Marx et Trotsky, puis Beauvoir et Genet. Quand je la vois aujourd'hui le corps perclus de douleur, lié à la dureté des tâches qu'elle avait dû accomplir pendant près de 15 ans, debout devant une chaîne de montage où il lui fallait accrocher des couvercles à des bocaux de verre, avec le droit de se faire remplacer 10 minutes le matin et 10 minutes l'après-midi pour aller aux toilettes, je suis frappée par ce que signifie concrètement, physiquement, l'inégalité sociale. Et même ce mot d'inégalité m'apparaît comme un euphémisme qui déréalise ce dont il s'agit, la violence nue de l'exploitation.
Didier Ribon, c'est un moment très fort dans le texte, mais c'est un moment très fort dans la salle de spectacle où l'on voit ces images de vous en face de votre mère. Et quand vous dites la violence nue de l'exploitation, elle est inscrite sur le corps de cette femme qui est assise en face de vous. Et vous disiez tout à l'heure, il fallait pour vous reprendre une certaine distance. Je crois que Thomas Ostermayer l'a fait en insistant beaucoup sur la lecture très politique aussi de ce texte.
Ah oui, bien sûr. Enfin, pour moi, voir ces images est très difficile parce que quand ma mère fait irruption comme ça sur l'écran dans la salle de spectacle, elle est morte l'année dernière. Donc, revoir ces images-là, cette conversation avec elle, qui a été enregistrée 3 ou 4 mois avant sa mort, c'est un moment un peu où je suis un peu submergé par l'émotion. Donc, j'ai du mal à avoir du recul. Mais de fait, Thomas Ostermayer a insisté sur la dimension politique du texte. D'ailleurs, quand le livre est sorti en Allemagne, il y a 3 ans maintenant, il y a eu une sorte d'électrochoc dans la société allemande où la notion de classe sociale avait été évacuée du discours politique, du discours culturel en général. Et mon livre, d'un seul coup, remettait ces questions dans le débat intellectuel et dans le débat politique. Et donc, il y a eu des dizaines d'articles, de débats, de discussions. Et pas seulement d'un point de vue théorique, qu'est-ce qu'une classe sociale, mais chacun était amené à s'interroger sur son rapport à sa famille, à son passé. Et donc, Thomas Ostermayer a été très, très touché par le livre sur la dimension politique, mais aussi par le livre sur la dimension personnelle, parce que comme il l'a dit dans une interview, sa mère était vendeuse et il n'osait pas l'inviter à ses premières à Berlin parce qu'il avait peur qu'on lui demande qui est cette drôle de dame là-bas, assise dans un coin. Et donc la question de la honte a été quelque chose d'important pour lui. Donc il a insisté sur la dimension sociale aussi, pourquoi une partie des classes populaires soit s'abstient aujourd'hui dans les élections, soit ne vote plus à gauche mais vote pour l'extrême droite. Ce qui, évidemment, quand mon livre est arrivé en Allemagne, un phénomène en train de se développer de manière spectaculaire et assez horrifiante, comme ça s'était passé en France quelques années auparavant. Donc il a voulu mettre ces questions au centre de son spectacle. Et évidemment, quand le livre revient en France, où ces questions sont posées à nouveau, ça se joue à l'Espace Cardin, au bas des Champs-Élysées, où tous les samedis se déroulent les manifestations des Gilets jaunes, qui protestent contre la violence sociale dont les individus, les vies sont l'objet, sont victimes aujourd'hui. Il est évident que la question de dans quelle société nous vivons, les inégalités, qui, comme je le dis, inégalité, c'est un mot, c'est un euphémisme, et quels sont les moyens qu'ont les individus qui sont victimes de ces inégalités, de cette injustice sociale profonde, quels sont leurs moyens de protester, de se faire entendre.
D'ailleurs, ce qu'il y a de formidable avec le théâtre, on lit un livre, on est seul en face d'un livre, on l'emmagasine, on en retient des choses, et puis quand on entend ce qu'on a lu, dit, proféré depuis une scène de théâtre, tout d'un coup, les mots prennent un poids différent. On écoute.
Quelle responsabilité portent ceux qui, après avoir accédé aux fonctions de pouvoir et aux positions d'importance, s'évertuèrent à oublier tout ce qui avait constitué l'une des préoccupations essentielles de la gauche, l'attention portée à l'oppression et aux antagonismes sociaux, ou tout simplement la volonté de donner une place aux dominés dans l'espace politique. Ce n'est pas seulement le mouvement ouvrier, ses traditions et ses luttes qui disparurent du discours politique et intellectuel et de la scène publique, mais les ouvriers eux-mêmes. Leur culture, leurs conditions de vie, leurs aspirations. Quand j'étais lycéen et trotskiste, mon père ne cessait de tempêter contre les étudiants qui veulent nous dire ce qu'il faut faire et qui dans 10 ans viendront nous commander. Quand je vois aujourd'hui ceux que sont devenus ceux qui prenaient la guerre civile et se grisait de la mythologie de l'insurrection prolétarienne. Comment pourrais-je affirmer que mon père avait tort? Ils sont toujours aussi sûrs d'eux-mêmes et aussi véhéments, mais dénoncent aujourd'hui la moindre protestation venue des milieux populaires. Ces gens qui prétendaient hier incarner l'avant-garde des travailleurs et qui se sont transformés en leurs ennemis. En 1981, François Mitterrand, apportant enfin l'espoir d'une victoire de la gauche, réussit à capter environ un quart de l'électorat du Parti communiste. La gauche socialiste se lançait sur la voie d'une mutation profonde qui allait s'accentuer d'année en année et commençait de se placer avec un enthousiasme suspect sous l'emprise d'intellectuels néo-conservateurs qui, sous couvert de renouveler la pensée de gauche, travaillaient à effacer tout ce qui faisait que la gauche était la gauche.
Irène Jacob, évidemment, on a enlevé les
extraits,
les extraits de sonores, parce qu'en fait, dans ce film, il y a aussi énormément d'archives. Et quand je disais tout à l'heure que le livre de Didier Ribon outre son histoire personnelle, c'est l'histoire de notre génération qui passe dans ces mots. Et les images d'archives qui sont présentées, soit la misère ouvrière avant-guerre, puis les grands espoirs nés de l'union de la gauche, puis la trahison, en fait, ça exprime une génération. J'imagine que pour vous, actrice, c'est rare de pouvoir porter en scène un texte qui interagit à ce point avec la salle.
Oui. Et c'est vrai que au milieu de ces extraits qu'on a entendus, il y a aussi des interactions avec des politiciens aujourd'hui.
Il y a des archives formidables.
Ouais, et qu'on a l'impression d'être juste en train de regarder la télévision aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je crois que ce que disait Thomas Ostermayer, c'était imaginer ce lieu comme la fabrication d'un film, mais aussi la fabrication d'une pensée. Et puis le théâtre, qui est aussi cet art vivant où il faut fabriquer chaque jour de nouveau cette même pensée. Et à un moment, effectivement, on a fait une pause parce que c'était Noël, et donc Thomas nous a donné une petite indication à penser pendant la pause de Noël. Et moi, il m'a dit « Oui, Irène, je dirais juste... pense juste à pourquoi tu es là. » Ok, super.
Juste merci. Ça.
Ok, bah, bon Noël et puis on se retrouve dans une semaine, tout va bien. Et là, oui, et là, ce pourquoi on est là, je crois que c'est la question à se poser tous les jours, en fait. Et puis c'est la question que pose le spectacle. Et puis, comme disait Didier, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait et comment on ressent les choses. Après tout, nous sommes tous, même si on ne s'engage pas dans notre société, la société est là, tout autour de nous, on la ressent, on va dehors, on voit, on allume la télé. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là? Comment est-ce qu'on est là?
Didier,
c'est vrai que c'est une question que Thomas Ostermayer nous renvoie. Pourquoi on est là? Lui, il sait très bien pourquoi il est là, pourquoi il a fait ce spectacle, justement pour poser toutes ces questions dans un espace théâtral où il sait qu'il y aura des articles dans les journaux, des émissions à la radio. Et il demande aux spectateurs qui sont dans la salle, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous êtes en train de voir, d'entendre, du livre que vous avez lu ou que vous allez lire? Et donc, il nous pose à tous cette question. Et au fond, moi, je me dis, mais pourquoi j'ai écrit ce livre? Qu'est-ce que j'en attendais? Qu'est-ce que j'en attends aujourd'hui? Et qu'est-ce que vont en faire les lecteurs, les lectrices, après le spectacle ou après la lecture? Et au fond... Beaucoup de gens m'écrivent « je viens de lire ou de relire votre livre, que pouvons-nous faire maintenant ?» Et évidemment, ce n'est pas à moi de donner la réponse. Si je l'avais, je la donnerais volontiers, mais c'est une réponse à établir collectivement. C'est une réflexion collective, culturelle, intellectuelle et politique, qu'aucun n'a dit. Oui, personne n'a la réponse, mais elle est à construire collectivement. Et les espaces de discussion comme ceux qui sont ouverts par le spectacle de Thomas Ostermayer sont un des lieux, un des moments où cette discussion collective, cette construction d'un futur...
Vous pourriez dire reconstruction.
Reconstruction d'un futur et reconstruction d'une gauche, comme qu'est-ce que pourrait être la gauche aujourd'hui. Il faut des lieux pour la reconstruire et le spectacle peut être un des éléments de cette reconstruction d'une pensée de gauche.
Hard times in every where you go. Times are harder than ever been before. People, they are drifting from door to door, but they can't find no heaven. I don't care where they go. If I ever can get up off of this old heart-killing floor, Lord, I'll never get out this low no more.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Contrairement à ce qu'affirme Sartre, l'homosexualité n'est pas une issue qu'on invente pour ne pas suffoquer. Bien plutôt, l'homosexualité impose de trouver une issue pour ne pas étouffer. Je ne puis m'empêcher de penser que mon autocréation comme intellectuel constitua la manière que j'inventais pour me débrouiller avec ce que je devenais. Il se pourrait bien qu'en ce qui me concerne, le ressort de ce miracle social ait été mon homosexualité.
Didier Ribon, cette phrase, elle est aussi au cœur de votre livre. C'est un écho à celle de Genet. L'homosexualité vous a imposé, en quelque sorte, de devenir d'abord un très bon élève parce qu'il fallait quitter Reims.
C'est-à-dire que dans le milieu dans lequel j'étais, l'école, les études, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas, qui ne plaisait pas, et on se déscolarisait très facilement, avec même volontairement. C'était, on croyait que c'était volontaire, mais en fait c'était le, on adhérait au destin social qui nous était assigné. Et moi, comme je devenais gay, avant même d'être gay, je le devenais. Je n'adhérais pas aux valeurs masculinistes de mon milieu où, pour un garçon, se plier à la discipline scolaire, c'est précisément contrevenir à la virilité. Disons que, si je puis dire comme ça, l'école, être bien travaillé à l'école, c'est pour les filles et pour les PD, si vous me permettez, puisque c'est comme ça qu'on dit, donc je peux le dire à la radio. Et donc, comme je devenais précisément ce qu'il ne fallait pas être, j'ai surinvesti l'adhésion au système scolaire, à la culture, et à 16 ans, moi qui venais d'un milieu où on ne lisait pas de livres, je me suis mis à lire Marguerite Duras. Je me revois achetant Détruire, dit-elle, dans une librairie. Et lire Marguerite Duras, c'était une manière d'être gay, sans affirmer que j'étais gay, puisque c'était difficile, impossible à l'époque. Donc, puisque j'étais différent, je devais différer, je devais m'éloigner, je devais prendre mes distances par rapport à mon milieu, je devais m'inventer autrement, je devais fuir. Donc il fallait que je parte, il fallait que je quitte Reims, il fallait que je puisse vivre ma vie autrement. Donc je suis venu à Paris et ma vie, évidemment, a changé à ce moment-là.
À ce moment-là, les études vous ont offert cette sorte de miracle social. Mais vous revenez là-dessus pour dire qu'au fond, contrairement à ce qu'on répète depuis toujours en France, l'ascenseur social, l'école républicaine qui permet de... En fait, vous faites la démonstration que non, ça ne peut être qu'une chose aberrante que quelqu'un d'un milieu populaire ouvrier devienne tout d'un coup un intellectuel. Vous êtes l'exception qui confirmait une règle qui est que l'assignation sociale, comme dirait Bourdieu, elle reste, elle demeure à travers les âges.
Bien sûr, parce que c'est pas parce qu'il y a quelques exceptions que ça annule la règle. Au contraire, il y a des exceptions qui... à partir desquelles on peut analyser la règle. Pourquoi il y a des exceptions à cette règle si violente, si brutale, qui l'élimination des enfants des classes populaires, du système scolaire, à des moments différents. Et même si on va à l'université, il est bien évident que les enfants des classes populaires vont à l'université un an, deux ans, trois ans, quand les enfants des classes privilégiées, des classes dominantes, font les classes préparatoires, aux grandes écoles, dans les grandes écoles. Donc, ce sont des filières différentes, ce sont deux planètes de l'éducation tout à fait différentes. Et l'écart, les enfants des classes populaires accèdent à l'université à laquelle ils ne pouvaient pas accéder il y a 30 ou 40 ans, mais en y accédant, l'université est devenue un lieu de relégation où ne vont pas les enfants des classes dominantes de la bourgeoisie. Et donc l'écart s'est déplacé dans le système scolaire, dans le temps, mais il se maintient aussi rigide. Et donc mon livre est aussi, Retour à Reims est un livre sur le système scolaire en grande partie. Comment fonctionne le système scolaire? Pourquoi mon père a travaillé en usine à 13 ans et demi? Ma mère est devenue femme de ménage à 14 ans, placée par l'assistance publique. Pourquoi mes frères sont sortis du système scolaire avant de passer le bac? Et j'ai voulu analyser cette violence sociale et donc politique et économique, bien sûr, qu'exerce le système scolaire. Le système scolaire est un des lieux, Bourdieu l'a dit avant moi et je me réfère à ses analyses, est un des lieux de reproduction et de légitimation des classes sociales et de la différence des hiérarchies entre les classes sociales.
Mais d'ailleurs, vous allez encore plus loin dans cette analyse, Didier Ribon, puisque vous employez le terme « guerre sociale ». On va écouter justement Irène Jacob dire cette partie de votre texte qui va déclencher dans la pièce d'Ostermayer le débat ensuite entre la lectrice qui tout d'un coup s'interroge sur les termes qu'elle entend et se demande si vraiment il y a complot, et un débat avec le réalisateur s'en suivra.
Est-il possible de parler d'une guerre implacable menée par la société dans le fonctionnement le plus banal de ses mécanismes les plus ordinaires, par la bourgeoisie, par les classes dominantes, par un ennemi invisible ou trop visible, contre les classes populaires en général? Il suffirait de regarder les statistiques de la population carcérale en France ou en Europe pour s'en convaincre. Les chiffres seraient éloquents qui indiqueraient la sinistre probabilité pour les jeunes hommes des banlieues déshéritées, et notamment ceux qu'on définit comme issus de l'immigration, de se retrouver derrière les barreaux. Et il ne serait pas exagéré de décrire les cités autour des villes françaises aujourd'hui comme le théâtre d'une guerre civile larvée. La situation de ces ghettos urbains, comme la cité Orgeval où j'ai vécu de 13 à 20 ans, montre à l'envi comment on traite certaines catégories de la population, comment on les repousse aux marges de la vie sociale et politique, comment on les réduit à la pauvreté, à la précarité, à l'absence d'avenir. Les grandes révoltes qui embrassent d'intervalles réguliers ces quartiers ne sont que la condensation soudaine d'une multitude de batailles fragmentaires dont le grondement ne s'éteint jamais. Mais je serais également tenté d'ajouter que des réalités statistiques, comme l'élimination systématique des classes populaires, du système scolaire, et les situations de ségrégation et d'infériorité sociale auxquelles ces dernières sont vouées par la puissance de tels mécanismes ne peuvent s'interpréter autrement qu'en termes de guerre sociale.
Irène Jacob, c'est le moment dans cette pièce d'Ostermayer où la personne que vous interprétez, tout d'un coup, entend ce qu'elle dit et s'interroge et se demande qui est ce « on ». Et s'ensuit une discussion avec le réalisateur. En fait, qui est ce on ? Est-ce qu'il y a une volonté précise pour cette guerre sociale ? J'imagine qu'à ce moment-là, la salle aussi, vous devez sentir en fonction des soirées le retour de la salle, l'approbation, la désapprobation, les soupirs d'étonnement. Comment est-ce que ça se passe, ce nœud de la pièce, justement ?
Oui, donc le réalisateur, qui est Cédric Écoute, qui essaye de faire le meilleur film possible, mais en même temps il a des contraintes. Il veut quand même que son film passe à la télé. On sent que il fait ce film avec peu d'argent. Enfin, il est pas dans une grosse production à ce moment-là. Et l'actrice qui vient aussi gracieusement, donc moi, pour faire ce film, trouve que quand même si on utilise le terme guerre sociale, c'est dommage de couper la suite où l'auteur, donc Didier Ribon, parlait de ce que c'était que la théorie du complot social et l'explorait. Et elle dit, mais enfin, c'est bien de pouvoir y réfléchir. Enfin, après tout, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais pourquoi ne pas donner au spectateur l'occasion d'y réfléchir, puisque c'est toujours un peu sous-jacent ou qui vient hanter la pensée. Allons-y, parlons-en, et puis comme ça, on peut peut-être le relativiser, on peut aussi en être conscient, et puis on peut ensuite se positionner par rapport à ça. Donc c'est l'occasion d'avoir ce dialogue entre nous, et de poser ces questions-là.
Le mot, pour revenir sur le mot guerre sociale, guerre, c'est un mot que j'emprunte à l'écrivain américain John Edgar Wideman, qui dans son très beau livre qui a été traduit en français sous le titre « Suis-je le gardien de mon frère ?» a une discussion avec sa propre mère où il dit « Il y a une guerre que mène la société contre les Noirs aux États-Unis. » Et sa mère lui dit « Tu exagères, c'est pas une guerre. » Et il dit « On peut me dire tout ce qu'on voudra, je maintiens qu'il y a une guerre menée par la société contre les Noirs. » Et je cite ce passage et je dis, je reprends le terme dans le livre, je reprends le terme de guerre et je l'applique à la manière dont la société, les sociétés européennes traitent les Noirs et les Arabes, mais aussi plus généralement dans le fonctionnement du système scolaire, on voit bien qu'il y a une guerre où les classes dominantes, privilégiées, défendent leur territoire. Et aujourd'hui, si vous voyez les grandes écoles ou les classes préparatoires aux grandes écoles dans les grands lycées parisiens, par exemple, le recrutement social des classes préparatoires dans les grands lycées parisiens est plus fermé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 40 ou 50 ans. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé la démocratisation, c'est-à-dire l'accès des enfants des classes populaires à l'université, à l'enseignement supérieur, a fait que les classes dominantes ont durci les murs de protection de leurs espaces à elles, pour les protéger contre cette invasion que pourrait représenter la démocratisation et l'arrivée des classes populaires. On défend leurs privilèges. Donc il y a une, une guerre. Alors le mot guerre peut sembler, que je reprends à Weidman, peut sembler excessif, mais si je peux le défendre, je le réaffirme. Il y a une sorte de guerre sociale. Oui.
Voilà, alors justement cette discussion à laquelle nous faisons allusion depuis quelques minutes, nous allons l'écouter. On entend donc l'actrice qui dit le texte, Irène Jacob, face à Cédric Écoute, le réalisateur. Ils se disputent autour de ce terme et peut-être même de cette idée de complot.
Certaines des formulations de Bourdieu s'approchent étonnamment de ce qu'il tient tant à récuser. Même s'il s'agit moins chez lui de désigner une volonté cachée que des résultats objectifs.
Oui, donc exactement. Donc la seule chose qui compte pour Bourdieu, enfin la chose la plus importante, ce sont les résultats. Mais moi, tu vois, je trouve qu'on pourrait dire que tout ça, ce sont les résultats d'un système et non pas d'une force démoniaque. Mais bon, vas-y, continue à lire.
Par exemple, quand Bourdieu écrit... Quelle est la fonction réelle d'un système d'enseignement qui fonctionne de manière à éliminer de l'école, tout au long du cursus scolaire, les enfants des classes populaires et à moindre degré des classes moyennes? Et maintenant, Héribon, je ne puis m'empêcher de voir dans le système scolaire tel qu'il fonctionne sous nos yeux, une véritable machine infernale. Sinon programmée pour atteindre certains buts, du moins aboutissant à ce résultat objectif, rejeter les enfants des classes populaires, perpétuer et légitimer la domination de classe, l'accès différentiel aux métiers et aux positions sociales. Une guerre se mène contre les dominés et le col en est donc l'un des champs de bataille. C'est pas mal, je garderai ça, moi.
Dites-moi, on pourrait pas avancer? Ces conversations intellectuelles, c'est bien joli, mais moi, je perds de l'argent. Tu crois que j'ai la poule aux œufs d'or qui m'attend à la maison? J'ai un gamin à nourrir et j'ai la nounou à payer. Déjà que je te fais le studio à moitié prix.
Voilà, c'est un moment du spectacle intéressant parce que, en fait... Du coup, Irène Jacob lance une invite carrément au spectateur à s'emparer, à non pas recevoir le texte et dire c'est bien, c'est pas bien, mais à se dire, au fond, moi, qu'est-ce que je répondrais à cette partie-là du texte? Est-ce qu'il y a guerre sociale? Et s'il y a une guerre, est-elle décrétée par une force obscure?
Oui.
Ou est-ce le résultat d'un
Irène
système
dit à plusieurs reprises, il ne faut pas couper ce passage du texte d'Héribon, parce qu'il faut laisser au spectateur le soin de réfléchir et de décider lui-même ou elle-même de ce qu'il ou elle en pense. Et donc, ici, il y a une intervention de l'actrice contre le réalisateur qui dit, mais c'est pas... Là, tu censures le texte, laisse-le... Et même si tu n'es pas d'accord, pour que les gens qui écoutent se fassent leur propre idée.
D'ailleurs, à la fin de cet extrait, on entend l'intervention donc de celui qui possède le studio,
Bled
Alimbay, et qui va arriver d'ailleurs à la fin de la pièce. Alors là, c'est une intervention de Thomas Ostermayer dans votre récit, Didier Héribon. Je veux dire, alors, je voudrais qu'on m'explique, parce que je comprends que peut-être pour un Allemand, faire intervenir l'histoire des tirailleurs sénégalais, c'est quelque chose qui sur lequel il a accroché, comme si il fait dire à l'actrice, mais au fond, c'est quoi cette histoire de tirailleurs sénégalais? Alors que franchement, en France, on sait ce que c'est.
Il y a beaucoup de gens qui la découvrent quand même.
Bon,
oui, c'est étonnant. Alors oui, ils le connaissent pour la Première Guerre mondiale, mais pas pour la Deuxième. Et puis, c'était l'histoire de Blade. Donc quand il a rencontré plusieurs rappeurs, et puis il a choisi Blade pour sa musique, pour ce qu'il était, pour son talent, et aussi pour son histoire, où il s'est dit, tiens, de nouveau, peut-être on peut réquestionner cette histoire à travers de l'histoire de Blade, à la fin aussi.
Didier Héribon, pensé quoi?
Ce que raconte Bled Alimbay n'est pas seulement l'histoire des tirailleurs sénégalais.
L'histoire de son grand-père.
Il dit que les autorités coloniales recrutaient des gens en 1940, pour les faire venir en France, en leur faisant miroiter un travail dans la mère patrie, etc., à laquelle tout le monde rêvait. Et quand ils arrivaient, on les envoyait au front, comme chair à canon. Et il raconte que les Allemands, quand ils faisaient des prisonniers, fusillaient tout de suite les Noirs et faisaient prisonniers les Blancs. Et quand ils sont rentrés, après la guerre, quand les tirailleurs sénégalais sont rentrés en 44-45 au Sénégal, il y avait un camp où ils arrivaient, Tiroy, et ils ont protesté parce qu'ils n'avaient pas de...
Touché leur solde,
et ils ont été exécutés par le gouvernement français, les autorités. Ceux qui étaient venus défendre la France, sauver la France, étaient exterminés par la France quand ils rentraient parce qu'ils demandaient à être payés. Et ceux qui se sont installés, comme le grand-père de Bled Alimbay, qui se sont installés en France pour travailler, ont participé à la reconstruction du pays. Et comme le dit Blade, mon grand-père est venu à, pour libérer la France, pour rester pour reconstruire la France. Et à moi, qui suis son petit-fils, qui suis né au Havre, on me demande de m'intégrer. On me demande toujours de m'intégrer. S'intégrer à quoi et pourquoi il n'y a aucune raison de lui demander de s'intégrer. Donc, c'est une réflexion aussi sur le racisme et les structures raciales, le racisme institutionnel, mais politique, mais aussi le racisme quotidien. Donc, c'est une fin du spectacle qui ouvre sur d'autres questionnements. Ça, c'est c'est un choix de Thomas Ostermayer. Et moi, je trouve très bien qu'on pose toutes ces questions parce que ce sont des questions qui se posent aujourd'hui dans nos sociétés européennes. Et on ne peut pas parler de l'Europe, de la construction de l'Europe, sans parler du racisme, de comment un certain nombre de gens sont traités dans les banlieues.
Comment
on a eu besoin d'eux. La question de l'immigration et des migrants. Puisque quand mon grand-père, on lui a fait traverser la Méditerranée, on l'a quasiment fait venir. Et aujourd'hui, la Méditerranée, c'est une mer qu'on n'a plus le droit de traverser. Et comme il le dit, les études montrent quand on pêche des poissons, on s'aperçoit que des protéines humaines contenues dans les poissons qu'on pêche dans la Méditerranée. Donc la Méditerranée est un cimetière pour d'innombrables Africains. Par conséquent, que ces questions soient posées sur la scène d'un théâtre parisien, je trouve que je ne peux que m'en réjouir.
Irène Jacob. Et puis j'entends effectivement beaucoup de gens qui du coup sortent aussi en disant leur histoire. Ah, mes grands-parents sont venus d'Italie. Finalement, ça ouvre peut-être à mille autres histoires la liberté de cet écart-là.
Eh bien, il me reste à vous remercier tous les deux, Irène Jacob, Didier Ribon, d'être venu nous parler de cette pièce « Retour à Reims ». D'après le livre de Didier Ribon, mis en scène par Thomas Ostermayer, c'est donc à voir jusqu'au 16 février à Paris à l'Espace Cardin et puis ensuite dans toutes les villes de France, à peu près dans toutes, ça passera jusqu'en fin mai 2019.
Même fin décembre.
Ah, même ça a commencé à... Ouais, voilà, il y a d'autres théâtres qui se sont proposés. Et puis quand même, puisqu'on est sur ce théâtre politique lié à l'abandon de ces classes populaires, il y aura du 12 mars au 3 avril au Théâtre de la Colline, Qui a tué mon père, d'après le livre d'Édouard Louis. Ça sera mis en scène et joué par Stanislas Nordet, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'échos entre votre analyse de l'exploitation de votre famille et le livre, le petit livre, qui s'est fait tellement critiquer.
Superbe
oui,
livre.
Oui, formidable livre. Il faut parler de politique. Et le livre et le théâtre sont des bons lieux pour ça. Oui. Voilà. Merci à tous les deux.
Au revoir.
C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.